Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 8 février 2024. La CEDEAO se réunit en urgence pour examiner la demande de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso et la crise politique au Sénégal. Au Sénégal, la société civile appelle à manifester massivement contre le report de la présidentielle. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme face à l'escalade de la violence en République démocratique du Congo. La Cour suprême discute de l'inéligibilité de Trump à 9 mois de la présidentielle ici aux États-Unis. Et en sport, ne manquez pas notre journal de la CAN dans un instant. La finale de la Coupe d'Afrique va se jouer entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire dimanche à Abidjan. Tout de suite, le journal de la CAN pour commencer. L'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations est connue. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, va faire face au Nigeria. Direction Abidjan pour retrouver notre correspondant, notre envoyé spécial, Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Et oui, la miraculeuse Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la finale de sa CAN en battant la République démocratique du Congo 1-0. Au stade Alassane Ouattara de Bempi. L'unique but a été signé Sébastien Haller. Analyse de cette demi-finale avec le sélectionneur par intérim Emers Faye.
Dans les périodes où on était bien, que ce soit au début ou après la 30e, on a quand même pas mal combiné sur les côtés pour mettre beaucoup de centres parce qu'on savait que c'était une équipe qui n'aimait pas forcément défendre sur des centres en allant vers leur but. Donc non, on a été solide aussi défensivement. Donc dans l'ensemble, je pense que c'était une victoire d'ensemble, pas juste une victoire de bataille de milieu de terrain.
Emers Faye, sélectionné par intérim de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens reviennent de loin, eux qui avaient été presque éliminés après la phase de groupe avant de bénéficier d'une victoire marocaine pour arracher leur ticket pour la phase à élimination directe. La suite est connue. En huitième de finale, les éléphants sortent le champion en titre, le Sénégal, puis le Mali en cas dans deux matchs renversants. Face à la République démocratique du Congo en demi, ils ont pris les choses en main. Désormais, l'homme du match, Franck Kessier et ses coéquipiers visent le sacre final.
On a été repêché parmi les meilleurs troisièmes, donc je crois qu'on n'avait plus rien à perdre, on avait tout à gagner. Donc c'est ce qui explique ce parcours-là. Après, tu sors le tenant du titre qui est le Sénégal en huitième de finale. Donc franchement, après le tenant du titre, la voie elle est droite. Quoi.
Franck Kessier, joueur ivoirien. Cet optimisme est partagé par les fans des éléphants.
J'ai rendu fier la Côte d'Ivoire. J'ai rendu fier tous les Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens qui étaient assis devant les télé, chaussures à la maison, au terrain pour suivre le match.
On dit qu'après, il ne faut pas mourir deux fois. Donc on peut se prendre la coupe là. On a déjà gagné. On est confiants.
Ça n'a pas été facile, mais on ira jusqu'au bout. On est en demi-finale. Demi-finale, finale. On a gagné, on va croiser les Naïdja.
Le Nigeria nous doit quelque chose, on doit se projeter. Et dimanche, ça va chauffer. On verra si c'est le coupé de galons ou le Naïdja qui gagne.
Le président nous a demandé d'être un bien vu. Donc, en toute humilité, là, nous allons battre le Nigeria à point.
Les Léopards, eux, ne verront pas la finale et devront se préparer pour le match pour la troisième place samedi. Pour les sélectionneurs Sébastien Desabre, ils n'ont pas su profiter de leur temps fort dans cette rencontre.
On l'avait, ce rapport de force. On ne l'a pas bonifié. Ils l'ont eu à un moment donné en deuxième mi-temps, mais on défend mal sur une situation, tout simplement. On défend mal sur une situation. Ils ont le joueur qui fait le geste juste et qui a la qualité pour le faire, et ça fait la différence.
Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC. La journaliste congolaise Nathalie Diasuka, elle pointe du doigt le coaching du technicien français.
Vous savez, Gaël Kakuta vient de la blessure. C'est un joueur qui nous a produit un bon jeu pendant au moins deux matchs, hein, devant la Tanzanie, devant le Maroc. Mais il venait de la blessure, on ne pouvait pas commencer avec Gaël. On pouvait bien commencer avec Théo Bongonda. Malheureusement, le coach a fait, il faut se le dire, il a fait une bourre.
Nathalie Diasuka, journaliste congolaise, les supporters des Léopards préfèrent rester fair play.
Ils ont fourni les efforts qu'il fallait. Mais seulement que comme c'est le football, c'est un jeu, il fallait seulement qu'en sortant du stade, qu'il ait une équipe qui gagne et l'autre qui perde.
La finale de cette CAN 2023 va opposer dimanche 11 février le pays hôte, la Côte d'Ivoire donc, au Nigeria, qui est venu à bout de l'Afrique du Sud au tir au but, 1-1 après le temps réglementaire et les prolongations, suscitant une explosion de joie à Lagos.
I'm super excited and Je suis très heureuse que le Nigeria ait gagné le match, honnêtement, parce qu'ils pensaient que nous étions jeunes, que nous ne pouvions rien faire, mais maintenant nous leur avons prouvé que nous pouvions faire plus que ce à quoi ils s'attendaient, donc je suis très heureuse.
Le sélectionneur portugais du Nigeria, José Peseiro, qui dispute sa première CAN, est donc en course pour un premier titre.
Quand j'ai signé mon contrat, j'ai dit que je voulais gagner la CAN. Je ne sais pas si quelqu'un l'a cru ou pas. J'y ai cru dès le premier jour. Nous n'avons rien gagné jusque-là, mais nous voulons gagner la CAN.
José Peseiro, sélectionneur du Nigeria, ivoirien et nigérian, s'était déjà rencontré en phase de poule, un match remporté par les Super Eagles 1-0 sur pénalty. Un parfum de revanche ou de confirmation plane donc en l'air pour les uns et les autres. Yacouba Ouidraougo, Abidjan, pour VOA Afrique.
Jean-Roger Billon de retour à Washington avec vous pour présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunit aujourd'hui, en ce moment même, en urgence, à l'ordre du jour, la demande de retrait de l'institution du Mali, du Niger et du Burkina Faso et la crise politique au Sénégal, dont le président Macky Sall a annoncé samedi dernier le report de l'élection présidentielle de février à décembre. Tout de suite, nous retrouvons à Abuja notre correspondant Gilbert Tamba. Bonsoir Gilbert.
Bonsoir Jean et bonsoir à tous.
À ce stade, quels sont les échos que vous avez du conclave de la CEDEAO?
Alors, la réunion des ministres des Affaires étrangères se poursuit toujours au moment même où je vous parle. Ils sont en huis clos depuis plusieurs heures déjà. On attend toujours la sortie des ministres donc pour avoir une idée sur ce qui va se passer. Mais comme vous l'avez dit, la réunion des ministres des Affaires étrangères fait suite donc à l'annonce du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de la CEDEAO. Il y a eu des interventions d'inquiétude. Par exemple, le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Touré, a déclaré à l'ouverture de la cérémonie que si la CEDEAO doit être unie, c'est bien maintenant, ajoutant aussi que la région fait face à un défi majeur. C'est également ce qu'il a fait savoir, comprendre suite donc à ce qui se passe réellement dans la sous-région. Il a donc appelé à l'unité de la CEDEAO et de ses membres. Alors, pour le ministre nigérian des Affaires étrangères, qui est aussi le président de la commission de médiation des ministres de la CEDEAO, Youssouf Touga, la décision des trois pays pour sortir de la CEDEAO pour lui suscite une inquiétude considérable dans la région, mais aussi au-delà. Alors, l'autre crise débattue, comme vous l'avez dit durant cette rencontre, c'est la situation au Sénégal, suite donc à la décision de Macky Sall, le président sénégalais, de reporter la présidentielle initialement prévue pour le 25 février prochain. Ce report a été donc cautionné par les députés de l'Assemblée nationale qui ont fixé la date au 15 décembre 2024 prochain.
Merci à vous, Gilbert Tamba. On vous retrouvera dans les prochaines éditions pour la suite à donner à cette réunion. Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique à Abuja. À Dakar, un collectif de groupes de la société civile a appelé les Sénégalais à se mobiliser massivement contre le report de la présidentielle, évoquant une série d'actions à venir. Le point avec Dili Diko.
Nous invitons tous les citoyens concernés par la préservation des acquis démocratiques à se mobiliser massivement partout dans le pays et dans la diaspora pour empêcher cette confiscation du pouvoir, dit dans une déclaration la nouvelle plateforme Arsounou Élections, protégeons notre élection. Une grande manifestation est prévue mardi, a dit Malik Diop, l'un des coordinateurs de la plateforme. 13 candidats ont annoncé la mise en place d'un large front du refus pour tenter de faire respecter la date du scrutin qui était prévue le 25 février. Hier, le président sénégalais Macky Sall a ordonné à son gouvernement de prendre des mesures pour pacifier l'espace public face à la crise provoquée par le report de la présidentielle. Le communiqué ne précise pas quelles sont les mesures demandées. La CEDEAO se réunit d'urgence à Abuja et a déjà exhorté les autorités sénégalaises à respecter le calendrier électoral. Les États-Unis ont estimé que le report de la présidentielle et la prolongation du mandat de Macky Sall n'est pas légitime.
Nouvelle attaque au Niger. 9 civils ont été tués dans une attaque de djihadistes présumés qui a visé dimanche 3 villages de la région de Tillaberi dans la zone des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a indiqué aujourd'hui l'armée nigérienne. En RDC, les combats se poursuivent autour de Goma au lendemain d'une intensification des affrontements entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales. Des organisations humanitaires lancent un cri d'alarme face à l'escalade. Mohamed Moufa.
Des hostilités ont été signalées ce matin dans plusieurs villages opposant le M23 à l'armée congolaise, alliée à des membres des groupes armés dits patriotes et aussi appelés Wazalendo. Les combats ont lieu dans le territoire de Niragongo, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, et dans le Massissi, à une trentaine de kilomètres à l'ouest. Le trafic est coupé sur la route menant de Goma à Rutshuru, a indiqué Thierry Gassisiro, un représentant de la société civile. Ces dernières semaines, l'augmentation des pertes civiles et l'utilisation d'armes lourdes dans les zones peuplées, y compris dans les camps de déplacés, sont alarmantes, alerte le Forum des ONG internationales en RDC. Le conflit a déclenché des déplacements massifs vers plusieurs localités, ajoute le Forum dans un communiqué. La situation exige une action urgente pour protéger les civils et garantir l'accès humanitaire, ajoute le communiqué. En visitant RDC, le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a évoqué mercredi un risque de déflagration régionale et appelé à une reprise urgente des efforts diplomatiques pour régler la crise.
En Tunisie, les corps de 13 migrants soudanais ont été retrouvés et 27 autres sont portés disparus après le naufrage mercredi d'une embarcation partie de Sfax au large des côtes tunisiennes, a annoncé ce jeudi un responsable judiciaire. L'embarcation transportait 42 personnes, toutes soudanaises, et 2 personnes ont été sauvées. La Tunisie a remplacé la Libye comme principal point de départ en Afrique du Nord pour les personnes fuyant la pauvreté et les conflits ailleurs en Afrique et au Moyen-Orient, dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a intensifié ce jeudi ses frappes sur Rafah, accentuant les craintes sur le sort de plus d'un million de Palestiniens coincés dans cette ville de la bande de Gaza, sur fond de nouvelles tractations pour parvenir à une trêve. Le point avec Nani Talani.
Des témoins et des sources hospitalières ont fait état de frappes nocturnes, notamment à Rafah, dans le sud du territoire palestinien. En ce qui concerne Rafah, Israël a l'obligation de faire tout ce qui est possible pour s'assurer que les civils soient protégés et qu'ils aient accès à l'aide dont ils ont besoin, a affirmé hier le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a rencontré Benjamin Netanyahou lors d'une tournée régionale. Monsieur Blinken a quitté Israël après avoir plaidé pour un accord de trêve permettant l'acheminement de plus d'aide dans la bande de Gaza où la situation humanitaire est cauchemardesque selon l'ONU et pour la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. Au Caire, un nouveau cycle de négociations parrainé par l'Égypte et le Qatar avec la participation du Hamas a débuté ce jeudi. Nous nous attendons à des négociations très difficiles, mais le Hamas est ouvert aux discussions et désireux d'arriver à un cessez-le-feu, d'après un responsable proche du mouvement islamiste palestinien.
L'Irak a fustigé ce jeudi la frappe de drones américaine ayant tué un haut commandant des brigades du Hezbollah, influent groupe armé pro-Iran, responsable d'attaques contre des soldats américains. Bagdad accusant la coalition anti-djihadiste emmenée par Washington au Moyen-Orient d'être devenue un facteur d'instabilité. Le Pakistan a voté aujourd'hui pour des élections ternies par des violences et des soupçons de manipulation encore renforcés par la décision du gouvernement de couper les services de téléphonie mobile pour la journée. Le décompte des voix a commencé en début de soirée. Quelques 128 millions d'inscrits étaient appelés aux urnes pour élire les 336 députés du Parlement fédéral et renouveler les assemblées provinciales. Et puis, les présidents russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping ont eu aujourd'hui un entretien téléphonique au cours duquel ils ont affirmé leur volonté de rejeter toute ingérence des États-Unis dans leurs affaires intérieures, a déclaré le Kremlin. Selon les médias officiels chinois, les deux dirigeants ont plaidé pour le renforcement de leur coordination stratégique, la défense de la souveraineté des deux pays, la stabilité de leur chaîne d'approvisionnement. Ne partez nulle part ailleurs. Dans quelques instants, la page magazine de cette session d'information.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Au Sénégal, l'opposition et la société civile s'organisent après le report de la présidentielle au 15 décembre. Un collectif de groupes de la société civile a appelé ce jeudi les Sénégalais à se mobiliser massivement, évoquant une série d'actions à venir comme une manifestation et une grève sur fond de graves crises politiques. La diaspora sénégalaise a su avec intérêt la situation et se mobilise aussi. Abdourahman Dia a joint en Virginie Ben Diédiou, membre de l'association des Sénégalais autour de Washington DC, la capitale américaine.
Pour un pays qui est connu étant pour sa stabilité, un exemple de la démocratie dans la sous-région, un pays qui a une longue histoire de démocratie, de stabilité, qui, à la veille des campagnes présidentielles, tombe d'un seul coup dans ce que j'appellerais escapade autosuicidaire du président de la République, je ne comprends pas. Et tout cela nous amène à trouver des formules pour faire face.
Alors justement, et vous le disiez tantôt, le Sénégal était souvent présenté comme un modèle de stabilité et de démocratie. Et en tant que membre de la diaspora, avez-vous peur que cette image ne soit plus celle du Sénégal d'aujourd'hui? Et quand vous parlez aux autres membres de la communauté sénégalaise, comment est-ce que tout cela est vécu ici?
Alors, l'image du Sénégal est déjà entachée parce que nous qui faisions le tour de l'Afrique et donnions des leçons de démocratie, aujourd'hui, les gens nous donnent des cours de démocratie et les gens viennent à notre rescousse pour nous dire, écoutez, il y a un moyen de régler le problème avant que ça ne soit trop tard. C'est dommage. Mais le problème, c'est tellement dommage, imprudent, que parfois on trouve difficilement les raisons et les mots pour justifier cette dérive du président de la République.
Comment est-ce que vous vous organisez ici au sein de la diaspora pour contribuer au retour de la stabilité institutionnelle et au respect du calendrier électoral?
Alors, nous, de notre côté, ce que nous avons prévu de faire en tant que citoyens sénégalais et patriotes, c'est dire qu'il ne faut pas croiser les bras et dire que ça va se régler. Notre préoccupation, c'est la stabilité de notre patrie et c'est la préservation de notre constitution et de nos institutions. Donc, dans ce cas de figure, ce que nous comptons faire, c'est battre le macadam le dimanche 11 février, en tout cas pour protester, pour montrer notre mécontentement par rapport à ce qui se passe au Sénégal.
C'est un message à l'endroit de la communauté internationale. Comment est-ce que vous jugez justement la posture de cette communauté internationale?
Nous, ce que nous attendons de l'opinion internationale et la CEDEAO, l'Union africaine, les États-Unis, la France, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils soient du bon côté. Le bon côté ici, c'est le peuple sénégalais. Le bon côté ici, c'est la démocratie. Le bon côté ici, c'est la justice.
Ben Diédiou, de la diaspora sénégalaise, ici dans la région de Washington, D.C.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, les prix à la pompe sont de nouveau à la hausse. Il s'agit d'une augmentation de 15% qui, d'après le gouvernement, vise à réduire la subvention des produits pétroliers. Un ajustement des prix qui provoque des graissements des dents. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julintap.
Les gens ne comprennent pas qu'on a augmenté le prix du carburant. Les gens sont toujours dans les mêmes prix qu'ils payaient avant. Donc ce qui fait que ça ne donne plus.
Le désarroi d'un conducteur de moto-taxi à Yaoundé, quelques jours après l'ajustement des prix du carburant. Oscar Normand, conducteur de moto-taxi.
Avant, quand tu mettais 2 000, tu peux te retrouver même avec 6 000 ou 5 000 ou 6 000. Actuellement, là, tu mets même 2 000, tu ne te retrouves même plus, même à 3 000 ou à 4 000. Parce que les gens aussi pleurent qu'eux aussi, on ne les a pas augmenté le salaire.
L'ajustement des prix s'est fait sans négociation préalable avec les responsables du secteur de transport terrestre. Bida Doumbé, secrétaire aux affaires juridiques des transporteurs terrestres au Cameroun, a pris part à la réunion au cours de laquelle le gouvernement a annoncé la nouvelle augmentation.
Nous avons été informés, comme les 600 personnes qui étaient dans la salle, parce que pour la petite histoire, le cadre de concertation à la CESPH est un fourre-tout où nous, transporteurs, organisations de sous-production, sont muselés. C'est tellement, vous ne pouvez même pas parler des questions techniques là-bas. Donc ce cadre-là ne permet pas qu'on évoque les questions de compensation.
Sur le terrain, certaines agences de transport interurbain ont augmenté unilatéralement les prix des transports avant d'être rappelées à l'ordre par les autorités. Jean-Ernest Massinabibé, ministre des Transports.
Je suis quand même rassuré que ce ne soit pas tout le monde qui l'ait fait. Parce que nous serions là actuellement dans une sorte de désordre total. Et c'est dommage en violation des dispositions du cadre réglementaire en vigueur, mais également en violation des positions que nous avons eues ensemble. C'est l'occasion pour moi de leur demander de stopper, pour ceux qui l'ont fait, d'attendre la fin de concertation.
En 2022, le gouvernement dit avoir subventionné les prix de l'essence à la pompe à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA. Cette année, la subvention va consommer 184 milliards de francs CFA au trésor public. Paul Moutazeux, ministre des Finances.
C'est qu'il faut que chacun se pose la question. À quel niveau la subvention devient-elle un problème? Tout le monde comprend qu'avec 1 000 milliards, vous en finissez avec le problème de l'autoroute Douala-Yaoundé. Je prends quelques exemples. La première mesure que tous les agents du secteur public attendent, c'est effectivement la revalorisation des salaires. Nous avons fait tous les calculs et nous, on est prêts pour que, sauf si on a d'autres instructions, pour que cette revalorisation court à compter du salaire de ce mois de février.
Selon l'économiste Dieudonné Essomba, le gouvernement fait fausse route en essayant toujours d'agir sur les prix.
Le problème au Cameroun, c'est que nous n'avons pas de politique de revenus. Et l'absence d'une politique de revenus plombe le gouvernement dans des tentatives désespérées de contrôler les prix. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire nous fabriquons l'impasse.
La nouvelle hausse de 15% des prix à la pompe survient un an après la précédente. Le litre de super coûte désormais 840 francs CFA, tandis que le litre de gasoil est passé à 828 francs CFA. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les migrants africains en provenance de Libye et vivant au Rwanda souhaitent trouver d'autres pays d'accueil pour s'y installer définitivement, même s'ils se sentent mieux au Rwanda qu'en Libye, la vie de transit n'étant pas rassurante. Le reportage à Kigali de Jean Damascène Manishimwe.
Après un accord conclu entre le Rwanda, l'Eurocommissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union africaine, le Rwanda accueille depuis 2019 des migrants venus de Libye. Ils sont essentiellement des Soudanais, Éthiopiens, Érythréens, Somaliens, Camerounais, Nigérians, Tchadiens et Soudanais du Sud. Même si ces migrants se sentent soulagés au Rwanda, ils sont loin d'oublier la vie atroce de Libye. C'est ce qu'indique ce migrant soudanais.
Je me sens plus sécurisé au Rwanda qu'en Libye parce que là-bas, tu pouvais être attrapé et mis en prison à moins que tu payes de l'argent. Certains des nôtres ont risqué leur vie et sont morts en prison.
Ce témoignage est partagé par cette Érythréenne qui est arrivée au Rwanda en 2022 après avoir souffert pendant 4 ans en Éthiopie, au Soudan et en Libye.
La vie en Libye était horrible. C'est ce qui me revient en tête. On était obligé de se payer un loyer, mais on pouvait être expulsé à n'importe quel moment. On déménageait, mais en vain. On se retrouvait dans une même situation. J'ai essayé de payer le bateau pour aller en Europe, mais j'ai été arrêté et ramené en Libye. On m'a emprisonné et on m'a ravi mes documents du ACR.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indique qu'en plus d'une assistance matérielle, ces migrants ont besoin aussi d'un accompagnement psychosocial pour tourner la page de l'expérience traumatisante de la Libye. C'est ce qu'explique la représentante du HCR au Rwanda.
On discute pour eux pour essayer de diminuer le trauma qu'ils ont subi. Il y avait des activités récréatives pour les enfants. Nous leur donnons de la nourriture, mais aussi nous les aidons à développer quelques compétences et qualifications pour les permettre d'avoir des bases solides pour trouver une solution durable dans un autre pays tiers.
Ces migrants venus de Libye sont bien conscients du risque de traverser la mer pour rejoindre l'Europe. Poussés par la vie misérable dans leur pays, ils ont tenté cette aventure en espérant que leur rêve deviendra un jour une réalité.
Je voulais toujours tenter parce que j'ai quitté l'école sans aucun soutien. Dans le pays, quand la guerre a éclaté, nous avons arrêté les études. On n'avait pas d'emploi. C'est ainsi que nous sommes allés en Libye en tentant de rallier l'Europe. On essayait toujours croyant que par chance, on y parviendrait.
Le gouvernement du Rwanda déclare que ces migrants venus de Libye seront toujours assistés jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre pays d'accueil. Une situation différente de ce que le Rwanda pourrait accueillir si jamais l'accord avec le Royaume-Uni est mis en pratique. Alain Mukuralinda est porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda.
La plupart d'entre eux cherchent à émigrer ailleurs. Mais cette fois-ci, ça se fait d'une façon régulière, légale. Et la plupart d'entre eux sont déjà partis. Ce qui est différent avec les migrants qui viendront si le processus avance jusqu'au bout du Royaume-Uni, où ils pourront être intégrés. C'est comme ça que prévu l'accord entre les deux pays. Eux, ils seront intégrés avec les Rwandais.
D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis septembre 2019, le Rwanda a accueilli plus de 2000 migrants en provenance de Libye. Plus de 1200 d'entre eux ont déjà trouvé d'autres pays d'accueil hors du continent africain. Jean Damasceni Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
La Cour suprême des États-Unis examine aujourd'hui les plaidoiries pour déterminer si l'ancien président républicain Donald Trump est inéligible à la présidence en raison de son rôle dans l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Congrès. Nathalie Barge relate un compte-rendu de la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Wida-Kuswara, qui a interrogé des analystes sur ce cas particulier.
La question de savoir si le rôle de Donald Trump dans la prise d'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021 devrait le rendre inéligible est au cœur de l'affaire portée devant la Cour suprême. Il s'agit notamment de savoir si le probable candidat républicain doit être exclu des scrutins dans l'État du Colorado. Mark Graber, chercheur en droit constitutionnel à la faculté de droit Francis Kincarry, est l'un des universitaires qui ont adressé un mémoire à la Cour contre Donald Trump.
On lui a dit qu'il y avait dans la foule des gens armés avec l'intention d'envahir le Congrès. Il a répondu, lorsqu'il y a une fraude, vous n'utilisez pas les moyens habituels. Vous vous battez comme un diable. Une personne raisonnable pourrait dire que, étant donné le comportement de Trump, il avait l'intention d'encourager une insurrection et d'y participer.
L'affaire est basée sur la section 3 du 14e amendement, disqualifiant de l'exercice de ses fonctions toute personne qui a prêté serment de soutenir la Constitution et qui s'est ensuite engagée dans une insurrection. Les avocats de Donald Trump soutiennent que le 6 janvier n'était pas une insurrection et qu'il ne faisait qu'exercer son droit à la liberté d'expression. Ils affirment que la section 3 ne s'applique pas au président. C'est le point de vue d'Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, qui a défendu M. Trump dans le passé.
En l'absence d'action du Congrès, je ne crois pas que le 14e amendement soit auto-applicable. Sinon, pourquoi auriez-vous besoin de l'article 5 du 14e amendement qui donne explicitement au Congrès le pouvoir de prendre ses décisions?
6 des 9 juges de la Cour suprême ont été nommés par des présidents républicains, dont 3 par Donald Trump. Tous seront confrontés aux faits historiques présentés dans un autre mémoire par 25 historiens, dont Alan Lichtman de l'Université américaine de Washington.
Il sera très difficile de contredire les preuves historiques que nous avons présentées dans notre mémoire sur la question de savoir si Trump est couvert par la section 3 et ne nécessite pas une action de Congrès ni une condamnation. Et cette section n'était pas destinée uniquement aux anciens confédérés.
Dans les mois à venir, la Cour suprême va probablement également délibérer sur la demande d'immunité de l'ancien président Donald Trump dans une affaire distincte d'ingérence dans les élections fédérales.
Voilà, le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.